Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est 20h sur Transistor, nous sommes le jeudi 26 mars et c'est le grand retour du journal radiophonique Amplifié. Malgré la pandémie et le confinement, nous nous retrouvons pour décrypter avec vous toute l'actu mixée, égalisée, montée et bien sûr tout autant dématérialisée qu'amplifiée. Ce soir au programme, on discutera forcément du coronavirus, mais aussi un peu d'autre chose. Il y aura du sport, de la musique, de la culture. Et c'est toute l'équipe qui est au rendez-vous pour retrouver toute l'actualité avec vous sur Transistor. Votre rendez-vous habituel n'est pas perturbé, ou en tout cas, il s'adapte. Et on passe tout de suite à l'international et au journal avec Marie.
Sanitaire, voilà ce qui résumerait le mieux la situation au Kosovo actuellement. Le gouvernement de coalition kosovare, à la tête du pays depuis 2 mois, vient d'être renversé par un vote de défiance. La motion de censure avait été présentée par un parti minoritaire dans la coalition gouvernementale. Le premier ministre, Albin Kurti, a accusé le président Hashim Thaçi, un des fondateurs de la branche politique de l'armée de libération du Kosovo, d'avoir organisé le vote afin de finaliser un projet d'échange de territoire avec la Serbie, sous accord américain. Le pays, rongé par la corruption et les inégalités, se retrouve donc sans aucun gouvernement pour gérer la crise du Covid-19. Les services de santé manquent cruellement de ressources, les gens tapent sur des casseroles à leur balcon pour protester contre la crise politique, et devant le Parlement, une banderole a été déployée. La pandémie la plus dangereuse pour le Kosovo, c'est la politique.
Merci Marie pour ce petit point au Kosovo. Et si on parle de coronavirus à l'international, on parle aussi d'insectes, on parle de chauves-souris, de moustiques et de tiques. Dans un article du Monde diplomatique, Sonia Cha pose la fameuse question. D'où vient le coronavirus? Pour le coronavirus, comme pour d'autres épidémies telles qu'Ebola, Zika ou la maladie de Lyme, il est facile de pointer du doigt ces animaux comme responsables de la transmission des virus aux humains. Et pourtant, cet article rappelle, article scientifique à l'appui, que si les virus se propagent facilement et nous atteignent avec une telle densité, c'est principalement provoqué par la destruction des habitats naturels de ces animaux. La déforestation, l'urbanisation et l'industrialisation effrénées offrent aux microbes pathogènes la possibilité d'atteindre les corps humains et de s'y adapter. La journaliste montre que 60% des virus qui nous touchent sont d'origine animale. Depuis 1940, des centaines de microbes pathogènes ont apparu dans des régions où jamais ils n'avaient été observés auparavant. C'est le cas du VIH, d'Ebola en Afrique occidentale ou de Zika sur le continent américain. S'agissant d'Ebola, par exemple, une étude réalisée en 2017 met en relief que ces apparitions sont les plus importantes dans les zones d'Afrique centrale et occidentale qui ont été récemment déforestées. En effet, avec la déforestation, les chauves-souris sont obligées de quitter leur habitat naturel pour s'abriter dans les arbres, des jardins ou dans les granges humaines. Le programme américain PREDICT, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, a identifié plus de 900 nouveaux virus liés à l'extension de l'empreinte humaine sur la planète. Virus parmi lequel, devinez quoi, on trouve des souches, jusque-là inconnues, de coronavirus comparables à celles du SRAS. Et dire qu'en octobre dernier, on apprenait que le gouvernement des États-Unis décidait de fermer le programme PREDICT. Peut-être que la pandémie mondiale leur fera changer d'avis. Et tout de suite, on passe au national avec Arthur.
Oui, je vais vous parler de la continuité pédagogique. C'est le nom qu'on a donné à l'improvisation permanente pour essayer de faire en sorte que des milliers et des milliers d'élèves continuent à avoir cours et que l'école continue à fonctionner pendant les 2, 3, 4, voire même 6 semaines où nous serons en confinement. Alors, il y a des cours à distance, il y a des devoirs envoyés, il y a les chaînes de télé publiques s'y sont mises aussi puisque France Info diffuse régulièrement différents programmes adaptés à un certain type pour le collège, pour l'école primaire ou pour le lycée. Il y a de nombreux problèmes qui ont parfois des solutions. C'est aussi un dispositif qui révèle des inégalités profondes entre ceux qui n'ont pas d'ordinateur personnel, entre ceux qui ne savent pas s'en servir, entre ceux qui n'ont pas les parents pour pouvoir les encadrer, entre ceux qui doivent aider les parents à s'occuper des petits frères et petites sœurs. Donc à ces difficultés s'ajoute aussi la fatigue des professeurs qui ne savent pas forcément et qui doivent faire 2 fois plus pour que les élèves puissent continuer Une fatigue qui commence à s'accentuer face au mépris que montre le gouvernement, soit en ne promettant rien en ce qui concerne la solidité des serveurs, ou soit comme le Cybet NDI qui décide alors de sortir des petites phrases méprisantes qui associé à des à personnes qui actuellement se battent pour essayer de garder un semblant de cohésion sociale dans notre pays.
Et dans notre journal, Martin, tu nous parles des anti-journaux.
Oui, le confinement déchaîne les énergies créatives. Nos murs, nos fils d'actualité sont inondés ces jours-ci de créations personnelles, et en particulier de journaux de confinement. De Wajim Wawad à Leïla Slimani ou Marie Dariussec, nombreux et nombreuses sont les auteurs et autrices, stars en tout genre, à céder à la tentation de s'exposer ainsi sur les réseaux. Seulement, elles ne sont pas les seules ni à subir le confinement, ni à chercher un moyen de s'occuper. Et à côté de leurs journaux bien propres, qui procèdent à une irrésistible esthétisation du confinement, émergent également ces anti-journaux de confinement. Et c'est la colère qui monte un peu partout. Je ne vous écris pas de ma résidence secondaire où nous aurions fui. Nous ne nous cachons pas notre voiture avec une plaque 75. Nous ne vivons pas un conte de fées. Je vous écris de chez moi, résidence que je n'ai pas quittée depuis maintenant une semaine, refusant de sortir. Entre la peur d'être malade et la colère que je ressens contre l'ensemble du monde. Je voudrais éviter d'exploser dans un rayon de Franprix, sur le blog de Madame Sourire, l'impensable honte. Parce que le confinement, c'est aussi la mise en avant des inégalités. Derrière l'Union nationale, derrière cette solidarité que l'on nous exhorte à tenir, il y a tous ceux et toutes celles qui ressentent, pas pour la première fois, la colère de se voir réserver un traitement spécial pendant la crise sanitaire. Le traitement spécial réservé aux pauvres, si à en croire les médias, la norme est de se réfugier dans sa résidence secondaire à la campagne. Toutes les guerres, toutes les famines et les crises mondiales ont apparemment été réglées. Cet extrait de caricature semble tomber juste. Seulement, devant la réalité d'un confinement dans 20 mètres carrés, amende à la clé si jamais l'on ose sortir, le gouvernement passant son temps à souligner la stupidité ou l'irresponsabilité des gens qui sortent, ces apparences risquent de ne pas tenir très longtemps.
Et derrière l'unité nationale, il y a aussi l'état d'urgence sanitaire.
Oui, l'état d'urgence sanitaire est un dispositif juridique d'exception qui permet au gouvernement de prendre certaines lois sans se faire embêter par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ou le Parlement. Bien sûr, c'est selon eux pour le bien national et on pourrait le croire comme le lancement de l'opération militaire Résilience pour pouvoir mobiliser l'armée pour pouvoir bouger des populations entières pour les emmener dans des hôpitaux à l'autre bout du pays. On parle aussi, c'est aussi pour que certaines dépenses rentrent dans une qualification budgétaire spéciale qui empêche de faire gonfler le déficit. Et bien sûr, cela donne plus de pouvoir à la police et à la gendarmerie et c'est pour pouvoir nous foutre des contraventions lorsque l'on commence à sortir. Mais bien sûr, le problème de cet état d'urgence sanitaire, qui est censé en fait mobiliser un appareil d'État tout entier, c'est les signaux contradictoires qu'il y a avec la parole d'État. La parole d'État qui dit que le BTP peut continuer de construire, qui dit qu'on peut faire un petit jogging. Le seul problème, c'est que cet état d'urgence sanitaire va devenir la norme pour les prochaines semaines. Le seul vrai problème est la question de sa perception. Le pouvoir qui est actuellement en place doit justifier et doit être en cohérence avec les mesures qu'il applique.
Et Marie nous parle tout de suite de la situation des SDF face au coronavirus.
Il y aurait au moins 150 000 personnes sans domicile fixe en France selon les chiffres de l'INSEE, soit 150 000 personnes extrêmement vulnérables face au virus. Partout dans l'Hexagone, des lieux ouvrent pour accueillir ces personnes. Palais des festivals à Cannes, camping à La Rochelle, centre de vacances à Toulouse. Mais dans les faits, la situation est difficilement tenable. Plus d'invendu pour se nourrir, aucune protection contre le virus, ni de quoi se laver les mains ou désinfecter ses affaires, des centres d'accueil et des maraudes qui ferment. Quant aux personnes qui vivent en bidonville, elles sont 80% à ne pas avoir accès à l'eau. Le gouvernement, face à cette situation, a annoncé prolonger la trêve hivernale de 2 mois. Macron a inauguré un nouveau centre d'hébergement et 2000 places d'hébergement supplémentaires devraient être débloquées. Les hôteliers sont aussi mobilisés, mais le confinement, dans tous les cas, reste difficile. On envisage ainsi la création de centres de desserrement afin d'isoler les personnes sans domicile fixe infectées, mais dont l'état ne nécessiterait pas une hospitalisation. Si vous voulez aider, sachez que les Restos du Cœur, le Secours Populaire ou le SAMU Social de Paris ont lancé de nombreux appels aux dons et les initiatives locales sont très nombreuses. À écouter aussi le reportage des Pieds sur Terre, conseillé par Rémi et disponible sur France Culture.
Et il n'y a pas que le coronavirus dans l'actualité.
Papa Groove est mort. Manny Bongo, le saxophoniste camerounais, est décédé à l'âge de 86 ans, après avoir attrapé, lui aussi, le coronavirus. Si vous ne le connaissez pas, pour sa contribution à la bande-son de Kirikou et les Bêtes Sauvages, je vous laisse avec ce morceau, Oko, de 1979.
C'est tout pour l'actualité. On passe tout de suite au billet d'ailleurs avec Marie.